Lucien Leven, chapitre 33. S'il se fut présenté la veille, Madame de Chastelet s'était décidée. Elle l'eût prié de ne venir chez elle, à l'avenir, qu'une fois la semaine. Elle était encore sous l'empire de la terreur causée par le mot que, la veille, Madame d'Aucuncourt avait été sur le point d'entendre, et elle, de prononcer. Sous l'empire de la soirée terrible passée chez Madame d'Aucuncourt, à force de se dire qu'il lui serait impossible, à la longue, de cacher à Leven ce qu'elle sentait pour lui, Madame de Chastelet s'était arrêtée, avec assez de facilité, à la résolution de le voir moins souvent. Mais à peine ce parti pris, elle en sentit toute l'amertume. Jusqu'à l'apparition de Leven à Nancy, elle avait été en proie à l'ennui. Mais cet ennui eût été maintenant pour elle un état délicieux, comparé au malheur de voir rarement cet être qui était devenu l'objet unique de ses pensées. La veille, elle l'avait attendu avec impatience. Elle désirait avoir eu le courage de parler, mais l'absence de Leven dérangeait tous ses sentiments. Son courage avait été mis aux plus rudes épreuves. 20 fois, pendant 3 mortelles heures d'attente, elle avait été sur le point de changer de résolution. D'un autre côté, le péril pour l'honneur était immense. « Jamais mon père, pensait-elle, ni aucun de mes parents ne consentira à ce que j'épouse M. Leven, un homme du parti contraire, un bleu, et qui n'est pas noble. Il n'y faut pas même penser. Lui-même n'y pense pas. Que fais-je donc? Je ne puis plus penser qu'à lui. Je n'ai point de mère pour me garder. Je manque d'une amie à qui je puisse demander des conseils. Mon père m'a séparée violemment de Madame de Constantin. À qui, dans Nancy, oserais-je seulement faire entrevoir l'état de mon cœur? Il faut donc que je sois sévère pour moi-même. Je n'en dois veiller qu'avec plus de vigilance sur la situation dangereuse dans laquelle je me trouve. Ces raisonnements se soutenaient assez bien. Quand enfin 10 heures sonnèrent, ce qui est, à Nancy, le moment après lequel il n'est plus permis de se présenter dans une maison non ouverte. « C'en est fait, se dit Madame de Chastelet. Il est chez Madame d'Aucuncourt. Puisqu'il ne vient plus, ajouta-t-elle avec un soupir, en perdant toute occasion de le voir, il est inutile de tant m'interroger moi-même pour savoir si j'aurai le courage de lui parler sur la fréquence de ses visites. Je puis me donner quelques répits. Peut-être même ne viendra-t-il pas demain. Peut-être ce sera lui qui, sans effort de ma part et tout naturellement, cessera de venir ici tous les jours. » Lorsque Leven parut enfin le lendemain, elle aussi, 2 ou 3 fois depuis la veille, avait entièrement changé de pensée à son égard. Il y avait des moments où elle voulait lui faire confidence de ses embarras, comme à son meilleur ami, et lui dire ensuite « Décidez ». Si, comme en Espagne, je le voyais au travers d'une grille par la fenêtre, moi au rez-de-chaussée de ma maison et lui dans la rue, à minuit, je pourrais lui dire des choses dangereuses. Mais si tout à coup il me prend la main en me disant, comme avant-hier, d'un ton simple et si vrai, « Mon ange, vous m'aimez ?» Puis-je répondre de moi ? Après les salutations d'usage, une fois assis l'un vis-à-vis de l'autre, ils étaient pâles, ils se regardaient, ils ne trouvaient rien à se dire. « Vous étiez hier, monsieur, chez Madame d'Aucuncourt ?»« Non, madame, » dit Leven, honteux de son embarras et reprenant la résolution héroïque d'en finir et de faire décider son sort une fois pour toutes. « Je me trouvais à cheval sur la route de Darnay lorsqu'a sonné l'heure à laquelle j'aurais pu avoir l'honneur de me présenter chez vous. » Au lieu de revenir, j'ai poussé mon cheval comme un fou pour me mettre dans l'impossibilité de vous voir. Je manquais de courage. Il était au-dessus de mes forces de m'exposer à votre sévérité habituelle pour moi. Il me semblait entendre mon arrêt de votre bouche. » Il se tut, puis ajouta d'une voix mal articulée et qui peignait la timidité la plus complète. La dernière fois que je vous ai vu auprès de la petite table verte, je l'avouerai, j'ai osé, en vous parlant, me servir d'un mot qui, depuis, m'a causé bien des remords. Je crains d'être puni par vous d'une façon sévère, car vous n'avez pas d'indulgence pour moi. Oh, monsieur, puisque vous avez le repentir, je vous pardonne ce mot, dit madame de Chastelet en essayant de prendre une manière d'être gaie et sans conséquence. Mais j'ai à vous parler, monsieur, d'objets bien plus importants pour moi. Et son œil, incapable de soutenir plus longtemps l'apparence de la gaieté, prit un sérieux profond. Leveine frémit. Il n'avait point assez de vanité pour que le dépit d'avoir peur lui donnât le courage de vivre séparé de madame de Chastelet. Que devenir les jours où il ne lui serait pas permis de la voir? Monsieur, reprit madame de Chastelet avec gravité, je n'ai point de mère pour me donner de sages avis. Une femme qui vit seule, ou à peu près, dans une ville de province, doit être attentive aux moindres apparences. Vous venez souvent chez moi? Eh bien, dit Leveine, respirant à peine. Jusque-là, le ton de madame de Chastelet avait été convenable, sage, froid, aux yeux de Leveine, du moins. Le son de voix avec lequel il prononça ce mot, eh bien, eût manqué peut-être au don Juan le plus accompli. Chez Leveine, il n'y avait aucun talent. C'était l'impulsion de la nature, le naturel. Ce simple mot de Leveine changea tout. Il y avait tant de malheur, tant d'assurance d'obéir ponctuellement dans ce mot, que madame de Chastelet en fut comme désarmée. Elle avait rassemblé tout son courage pour combattre un être fort, et elle trouvait l'extrême faiblesse. En un instant, tout changeait. Elle n'avait plus à craindre de manquer de résolution, mais bien plutôt de prendre un ton trop ferme, d'avoir l'air d'abuser de la victoire. Elle eut pitié du malheur qu'elle causait à Leveine. Il fallait continuer, cependant. D'une voix éteinte et avec des lèvres pâles et comprimées avec effort pour tâcher d'avoir l'air de la fermeté, elle expliqua à notre héros les raisons qui lui faisaient désirer de le voir moins souvent et moins longtemps, tous les deux jours, par exemple. Il s'agissait d'éviter de faire naître des idées, bien peu fondées sans doute, au public qui commençait à s'occuper de ses visites, et à mademoiselle Bérard surtout, qui était un témoin bien dangereux. Madame de Chastelet eut à peine la force d'achever ces deux ou trois phrases. La moindre objection, le moindre mot, quel qu'il fût, de Leveine, renversait tout ce projet. Elle avait une vive pitié du malheur où elle le voyait. Elle n'eût jamais eu le courage de persister, elle le sentait. Elle ne voyait plus que lui dans la nature entière. Si Leveine eût eu moins d'amour ou plus d'esprit, il eût agi tout autrement. Mais le fait difficile à excuser en ce siècle, c'est que ce sous-lieutenant de 23 ans se trouva incapable d'articuler un mot contre ce projet qui le tuait. Figurez-vous un lâche qui adore la vie et qui entend son arrêt de mort. Madame de Chastelet voyait clairement l'état de son cœur. Elle était elle-même sur le point de fondre en larmes. Elle se sentait saisie de pitié pour le malheur extrême qu'elle causait. Mais, se dit-elle tout à coup, s'il voit une larme, me voici plus engagée que jamais. Il faut à tout prix mettre fin à cette visite pleine de dangers. D'après le vœu que je vous ai exprimé, monsieur, il y a déjà longtemps que je puis supposer que mademoiselle Bérard compte les minutes que vous passez avec moi. Il serait prudent d'abréger. Leveine se leva. Il ne pouvait parler, à peine si sa voix fut capable d'articuler à demi « Je serais au désespoir, madame ». Il ouvrit une porte de la bibliothèque qui donnait sur un petit escalier intérieur qu'il prenait souvent pour éviter de passer dans le salon et sous les yeux de la terrible mademoiselle Bérard. Madame de Chastelet l'accompagna, comme pour adoucir par cette politesse ce qu'il pouvait y avoir de blessant dans la prière qu'elle venait de lui adresser. Sur le palier de ce petit escalier, Madame de Chastelet dit à Leven « Adieu, monsieur, à après-demain. » Leven se retourna vers Madame de Chastelet. Il appuya la main droite sur la rampe d'acajou. Il chancelait, évidemment. Madame de Chastelet eut pitié de lui. Elle eut l'idée de lui prendre la main à l'anglaise, en signe de bonne amitié. Leven, voyant la main de Madame de Chastelet s'approcher de la sienne, la prit et la porta lentement à ses lèvres. En faisant ce mouvement, sa figure se trouva tout près de celle de Madame de Chastelet. Il quitta sa main et la serra dans ses bras, en collant ses lèvres sur sa joue. Madame de Chastelet n'eut pas la force de s'éloigner et resta immobile et presque abandonnée dans les bras de Leven. Il la serrait avec extase et redoublait ses baisers. À la fin, Madame de Chastelet s'éloigna doucement, mais ses yeux baignés de larmes montraient franchement la plus vive tendresse. Elle parvint à lui dire pourtant « Adieu, monsieur ». Et comme il la regardait, éperdue, elle se reprit « Adieu, mon ami, à demain, mais laissez-moi ». Et il la laissa, et il descendit l'escalier en se retournant, il est vrai, pour la regarder. Leven descendit l'escalier dans un trouble inexprimable. Bientôt, il fut ivre de bonheur, ce qui l'empêcha de voir qu'il était bien jeune, bien sot. 15 jours ou 3 semaines suivirent. Ce fut peut-être le plus beau moment de la vie de Leven, mais jamais il ne retrouva un tel instant d'abandon et de faiblesse. Vous savez qu'il était incapable de le faire naître à force d'en sentir le bonheur. Il voyait Madame de Chastelet tous les jours. Ses visites duraient quelquefois 2 ou 3 heures, au grand scandale de Mademoiselle Bérard. Quand Madame de Chastelet se sentait hors d'état de continuer une conversation un peu passable avec lui, elle lui proposait de jouer aux échecs. Quelquefois, il lui prenait timidement la main. Un jour même, il tenta de l'embrasser. Elle fondit en larmes, sans le fuir pourtant. Elle lui demanda grâce et se mit sous la sauvegarde de son honneur. Comme cette prière était faite de bonne foi, elle fut écoutée de même. Madame de Chastelet exigeait qu'il ne lui parlât pas ouvertement de son amour. Mais en revanche, souvent elle plaçait la main dans son épaulette et jouait avec la frange d'argent. Quand elle était tranquille sur ses entreprises, elle était avec lui d'une gaieté douce et intime, qui, pour cette pauvre femme, était le bonheur parfait. Ils se parlaient de tout avec une sincérité parfaite, qui quelquefois eût semblé bien impolie à un indifférent, et toujours trop naïve. Il fallait l'intérêt de cette franchise sans bornes, surtout, pour faire oublier un peu le sacrifice qu'on faisait en ne parlant pas d'amour. Souvent, un petit mot indirect, amené par la conversation, les faisait rougir. Alors, il y avait un petit silence. C'était lorsqu'il se prolongeait trop que Madame de Chastelet avait recours aux échecs. Madame de Chastelet aimait surtout que Leven lui confiât ses idées sur elle-même, à diverses époques, dans le premier mois de leur connaissance, à 7 heures. Cette confidence tendait à affaiblir une des suggestions de ce grand ennemi de notre bonheur, nommé la prudence. Elle disait cette prudence. Ceci est un jeune homme d'infiniment d'esprit et fort adroit, qui joue la comédie avec vous. Jamais Leven n'osa lui confier les propos de Bouchard sur le lieutenant-colonel de Hussards, et l'absence de toute feinte était si complète entre eux que 2 fois ce sujet, approché par hasard, fut sur le point de les brouiller. Madame de Chastelet vit dans ses yeux qu'il lui cachait quelque chose. « Et c'est ce que je ne pardonnerai pas !» lui dit-elle avec fermeté. Elle lui cachait, elle, que presque tous les jours, son père lui faisait une scène à son sujet. « Quoi, ma fille, passer 2 heures tous les jours avec un homme de ce parti, et encore auquel sa naissance ne permet pas d'aspirer à votre main ?» Venaient ensuite les paroles attendrissantes sur un vieux père presque octogénaire, abandonné par sa fille, par son unique appui. Le fait est que M. de Pontlevé avait peur du père de Leven. Le docteur Dupoirier lui avait dit que c'était un homme de plaisir et d'esprit, dominé par ce penchant infernal, le plus grand ennemi du trône et de l'autel, l'ironie. Ce banquier pouvait être assez méchant pour deviner quel était le motif de son attachement passionné pour l'argent comptant de sa fille, et qui plus est, le dire. Chapitre 24. Pendant que la pauvre madame de Chastelet oubliait le monde, et croyait en être oubliée, tout Nancy s'occupait d'elle. Grâce aux plaintes de son père, elle était devenue pour les habitants de cette ville le remède qui les guérissait de l'ennui. À qui peut comprendre l'ennui profond d'une ville du second ordre, c'est tout dire. Madame de Chastelet était aussi maladroite que Leven. Lui ne savait pas s'en faire aimer tout à fait. Pour elle, comme la société de Nancy était tous les jours moins amusante pour une femme occupée avec passion d'une seule idée, on ne la voyait presque plus chez mesdames de Commercy, de Marcilly, de Puy-Laurent, de Serpierre, etc. Cet oubli passa pour du mépris et donna des ailes à la calomnie. On s'était flatté, je ne sais à propos de quoi, dans la famille de Serpierre que Leven épouserait mademoiselle Théo de l'Inde. Car en province, une mère ne rencontre jamais un homme jeune et noble sans voir en lui un mari pour sa fille. Quand toute la société retentit des plaintes que monsieur de Pontlevé faisait à tout venant de l'assiduité de Leven chez sa fille, madame de Serpierre en fut choquée infiniment plus que ne le comportait même sa vertu si sévère. Leven fut reçu dans cette maison avec cette aigreur de l'espoir de mariage trompé qui sait se présenter avec tant de variété et sous des formes si aimables dans une famille composée de 6 demoiselles peu jolies. Madame de Commercy, fidèle à la politesse de la cour de Louis XVI, traita toujours Leven également bien. Il n'en était pas de même dans le salon de madame de Marcilly. Depuis la réponse indiscrète, faite à propos de l'enterrement d'un cordonnier à monsieur le grand vicaire Ré, ce digne et prudent ecclésiastique avait entrepris de ruiner la position que notre sous-lieutenant avait obtenue à Nancy. En moins de 15 jours, monsieur Ré eut l'art de faire pénétrer de toutes parts et d'établir dans le salon de madame de Marcilly que le ministre de la guerre avait une peur particulière de l'opinion publique de Nancy, ville voisine de la frontière, ville considérable, centre de la noblesse de Lorraine, et peut-être surtout de l'opinion telle qu'elle se manifestait dans le salon de madame de Marcilly. Cela posé, le ministre avait expédié à Nancy un jeune homme, évidemment d'un autre bois que ses camarades, pour bien voir la manière d'être de cette société et pénétrer ses secrets. Y avait-on du mécontentement simple ou était-il question d'agir? La preuve de tout ceci, c'est que Leven entend sans sourciller des choses sur le duc d'Orléans, qui compromettraient tout autre qu'un observateur. Il avait été précédé à son régiment d'une réputation de républicanisme que rien ne justifiait, et dont il semblait faire bon marché devant le portrait d'Henri V, etc., etc. Cette découverte flattait l'amour-propre de ce salon, dont jusque-là les plus grands événements avaient été 9 à 10 francs perdus par M. un tel Owist, un jour de Guignon marqué. Le ministre de la guerre, qui sait, peut-être Louis-Philippe lui-même songeait à leur opinion. Leven était donc un espion du juste milieu. Monsieur Ré avait trop de sens pour croire à une telle sottise, Et comme il se pouvait faire qu'il eût besoin de quelque histoire un peu mieux bâtie pour détruire la position de Leven dans les salons de mesdames depuis Laurent et d'Aucuncourt, il avait écrit à M, chanoine de X, à Paris. Cette lettre avait été renvoyée à un vicaire de la paroisse sur laquelle résidait la famille de Leven, et M. Ray attendait chaque jour une réponse détaillée. Par les soins du même M. Ray, Leven vit tomber son crédit dans la plupart des salons où il se présentait. Il y fut peu sensible et ne s'arrêta même pas trop à cette idée, car le salon d'Aucuncourt faisait exception, et une brillante exception. Depuis le départ de M. Dantin, Mme d'Aucuncourt avait si bien fait que son tranquille mari avait pris Leven en amitié particulière. M. d'Aucuncourt avait su un peu de mathématiques dans sa jeunesse. L'histoire, loin de le distraire de ses idées noires sur l'avenir, l'y replongeait plus avant. Voyez les marges de l'histoire d'Angleterre de Hume. À chaque instant, vous y lisez une petite note marginale, disant « N se distingue ». Ses actions, ses grandes qualités, sa condamnation, son exécution. Et nous copions cette Angleterre. Nous avons commencé par le meurtre d'un roi. Nous avons chassé son frère, comme elle son fils, etc. Pour éloigner la conclusion, qui revenant sans cesse, « La guillotine nous attend !» lui avait persuadé de revenir à la géométrie, qui d'ailleurs peut être utile à un militaire. Il acheta des livres et 15 jours après découvrit par hasard que Leven était précisément l'homme fait pour le diriger. Il avait bien songé à M. Gautier, mais M. Gautier était un républicain. Mieux valait 100 fois renoncer au calcul intégral. On avait sous la main M. Leven, homme charmant et qui venait tous les soirs dans l'hôtel. Car voici ce qui s'était établi. À 10 heures ou 10h30 au plus tard, la décence et la peur de Mademoiselle Bérard forçaient Leven à quitter Madame de Chastelet. Leven était peu accoutumé à se coucher à 7 heures. Il allait chez Madame d'Aucuncourt. Sur quoi il arriva 2 choses. Monsieur Dantin, homme d'esprit, qui ne tenait pas infiniment à une femme plutôt qu'à l'autre, voyant le rôle que Madame d'Aucuncourt lui préparait, reçut une lettre de Paris qui le força à un petit voyage. Le jour du départ, Madame d'Aucuncourt le trouva bien aimable. Mais à partir du même moment, Leven le devint beaucoup moins. En vain, le souvenir des conseils d'Ernest d'Evelroy lui disait « Puisque Madame de Chastelet est une vertu, pourquoi ne pas avoir une maîtresse en 2 volumes ? Madame de Chastelet pour les plaisirs du cœur ?» et Madame d'Aucuncourt pour les instants moins métaphysiques. Il lui semblait qu'il mériterait d'être trompé par Madame de Chastelet s'il l'a trompé lui-même. La vraie raison de la vertu héroïque de notre héros, c'est que Madame de Chastelet, elle seule au monde, semblait une femme à ses yeux. Madame d'Aucuncourt n'était qu'importune pour lui, et il redoutait mortellement les tête-à-tête avec cette jeune femme, la plus jolie de la province. Jamais il n'avait éprouvé cette folie, et il s'y livrait tête baissée. La froideur subite de ses discours après le départ de Dantin porta presque jusqu'à la passion le caprice de Madame d'Aucuncourt. Elle lui disait, même devant sa société, les choses les plus tendres. Leven avait l'air de les recevoir avec un sérieux glacial que rien ne pouvait dérider. Cette folie de Madame d'Aucuncourt fut peut-être ce qui fit le plus haïr Leven parmi les hommes prétendus raisonnables de Nancy. Monsieur de Vassigny, lui-même, homme de mérite, Monsieur de Puylaurent, personnage d'une toute autre force de tête que Messieurs de Pontlevé, de Sanréal, Roller, et parfaitement inaccessible aux idées adroitement semées par Monsieur Ray, commencèrent à trouver fort incommode ce petit étranger, grâce auquel Madame d'Aucuncourt n'écoutait plus un seul mot de tout ce qu'on pouvait lui dire. Ces messieurs aimaient à parler un quart d'heure tous les soirs à cette femme si jeune, si appétissante, si bien mise. Monsieur Dantin, ni aucun de ses prédécesseurs, n'avait donné à madame d'Aucuncourt la mine froide et distraite qu'elle avait maintenant en écoutant leurs propos galants. Il nous confisque cette jolie femme, notre unique ressource, disait le grave monsieur de Puylaurent. Impossible de faire avec une autre une partie de campagne passable. Or, maintenant, quand on propose une course, au lieu de saisir avec enthousiasme une occasion de faire trotter des chevaux, madame d'Aucuncourt refuse tout net. Elle savait bien qu'avant 10h30, Leven n'était pas libre. D'ailleurs, monsieur Dantin savait tout mettre en train. La joie redoublait dans les lieux où il paraissait, et Leven, sans doute par orgueil, parlait fort peu et ne mettait rien en train. C'était un été noir. Telle commençait à être sa position, même dans le salon de madame d'Aucuncourt, et il n'avait plus pour lui absolument que l'amitié de monsieur Lanfort et le cas que madame de Puylaurent, inexorable sur l'esprit, faisait de son esprit. Lorsqu'on sut que madame Malibran, allant ramasser des talleurs en Allemagne, allait passer à 2 lieues de Nancy, monsieur de Sanréal eut l'idée d'organiser un concert. Ce fut une grande affaire qui lui coûta cher. Le concert eut lieu, madame de Chastelier n'y vint pas. Madame d'Aucuncourt y parut environnée de tous ses amis. On vint à parler d'amis de cœur, on fit sur ce thème de la morale de concert. Vivre sans un ami de cœur, disait monsieur de Sanréal, plus qu'à demi ivre de gloire et de punch, ce serait la plus grande des sottises, si ce n'était pas une impossibilité. Il faut se hâter de choisir, dit monsieur de Vassigny. Madame d'Aucuncourt se pencha vers Leven qui était devant elle. Et si celui qu'on a choisi, lui dit-elle à voix basse, porte un cœur de marbre, que faut-il faire? Leven se retourna en riant. Il fut bien surpris de voir qu'il y avait des larmes dans les yeux qui étaient fixés sur les siens. Ce miracle lui ôta l'esprit. Il songea au miracle au lieu de songer à la réponse. Elle se borna de sa part à un sourire banal. En quittant le concert, on revint à pied, et madame d'Aucuncourt prit son bras. Elle ne parlait guère. Au moment où tout le monde la saluait, dans la cour de son hôtel, elle serra le bras de Leven. Il la quitta avec les autres. Elle monta chez elle et fondit en larmes. Mais elle ne le haït point. Et le lendemain, à une visite du matin, comme madame de Serpierre blâmait avec la dernière aigreur la conduite de madame de Chastelet, madame d'Aucuncourt se tut et ne dit pas un mot contre sa rivale. Le soir, Leven, pour dire quelque chose, lui faisait compliment sur sa toilette. « Quel admirable bouquet! Quelle jolie couleur! Quelle fraîcheur! C'est l'emblème de la beauté qui le porte !»« Vous croyez? Eh bien, soit, il représente mon cœur, et je vous le donne !» Le regard qui accompagna ce dernier mot n'avait plus rien de la gaieté qui avait régné jusque-là dans la conversation. Il ne manquait ni de profondeur ni de passion, et un homme sensé ne pouvait laisser aucun doute sur le sens du don du bouquet. Leven le prit, ce bouquet, dit des choses plus ou moins dignes de Dora sur ses jolies fleurs, mais ses yeux furent gais, légers. Il comprenait fort bien, et ne voulut pas comprendre. Il fut violemment tenté, mais il résista. Le soir du lendemain, il eut l'idée de conter son aventure à madame de Chastelet avec l'air de lui dire « Rendez-moi ce que vous me coûtez !» Mais il n'osa pas. Ce fut une de ses erreurs. En amour, il faut oser, ou l'on s'expose à d'étranges revers. Madame de Chastelet avait déjà appris avec douleur le départ de monsieur Dantin. Le lendemain du concert, madame de Chastelet sut par les plaisanteries fort claires de son cousin Blancé que, la veille, Madame d'Aucuincourt s'était donnée en spectacle. Le goût qu'elle commençait à prendre pour le veine était une vraie fureur, disait le cousin. Le soir, Leven trouva Madame de Chastelet fort sombre. Elle le traita mal. Cette humeur sombre ne fit que s'accroître les jours suivants, et il régna entre eux des moments de silence d'un quart d'heure ou 20 minutes. Mais ce n'était plus ce silence délicieux d'autrefois qui forçait Madame de Chastelet à avoir recours à une partie d'échecs. Étaient-ce là les mêmes êtres qui, 8 jours auparavant, n'avaient pas assez de toutes les minutes de 2 longues heures pour s'apprendre tout ce qu'ils avaient à se dire. Chapitre 35. Le surlendemain, Madame de Chastelet fut saisie d'une fièvre violente. Elle avait des remords affreux, elle voyait sa réputation perdue. Mais tout cela n'était rien. Elle doutait du cœur de Leven. Sa dignité de femme était effrayée par la nouveauté du sentiment qu'elle éprouvait, et surtout par la violence de ses transports. Ce sentiment était d'autant plus vif qu'elle ne craignait plus pour sa vertu. Dans un cas d'extrême danger, un voyage à Paris où Leven ne pouvait la suivre, l'âme était à l'abri de tous les périls, tout en la séparant violemment d'un seul lieu de la terre où elle crut le bonheur possible. Depuis quelques jours, la possibilité de ce remède l'avait rassurée, lui avait rendu en quelque sorte une vie tranquille. Une lettre, envoyée à l'insu du marquis et par un express à Madame de Constantin, son amie intime, pour lui demander conseil, avait rapporté une réponse favorable et approuvé le voyage de Paris en un cas extrême. Ses remords une fois adoucis, Madame de Chastelet était heureuse. Tout à coup, aux récits, aux plaisanteries grossières, quoique exprimées en bons termes, dont le lendemain du concert de Madame Malibran, Monsieur de Blancé fut prodigue sur ce qui s'était passé la veille, elle fut surprise d'une douleur atroce et dont son âme pure avait honte. « Blancé n'a pas de tact, » se dit-elle. « Il est au nombre de ceux qui sentent péniblement la supériorité de Monsieur Leven. » Il exagère peut-être. Comment Monsieur Leven, si sincère avec moi, qui m'a avoué un jour qu'il avait cessé de m'aimer, me tromperait-il aujourd'hui? Rien de plus facile à expliquer, reprit avec amertume le parti de la prudence. Il est agréable et de bon goût pour un jeune homme d'avoir 2 maîtresses à la fois, surtout si l'une d'elles est triste, sévère, se retranchant toujours derrière les craintes d'une ennuyeuse vertu, tandis que l'autre est gaie, aimable, jolie, et ne passe pas pour désespérer ses amants par sa sévérité. Monsieur Leven peut me dire « Ou ne soyez pas pour moi d'une si haute vertu, ne me faites pas une scène lorsque j'essaie de vous prendre la main. » Il est vrai que je l'ai traité bien mal pour un mince sujet. Après un silence, elle continua avec un soupir. « Ne soyez pas de cette vertu outrée, ou permettez-moi de profiter d'un moment d'admiration que Madame d'Aucuincourt peut éprouver pour mon petit mérite. » Mais, quelque peu délicat que soit ce raisonnement, reprit avec rage le parti de l'amour, encore fallait-il me faire cette déclaration. Tel était le rôle d'un honnête homme. Mais Monsieur de Blancé exagère peut-être. Il faut éclaircir tout ceci. Elle demanda ses chevaux et se fit conduire précipitamment, successivement, chez Mesdames de Serpierre et de Marcilly. Tout fut confirmé. Madame de Serpierre alla même bien plus loin que Monsieur de Blancé. En rentrant chez elle, Madame de Chastelet ne pensait presque plus à Leven. Toute son imagination, enflammée par le désespoir, était occupée à se figurer les charmes et l'amabilité séduisante de Madame d'Aucuincourt. Elle les comparait à sa manière d'être retirée, triste, sévère. Cette comparaison la poursuivit toute la nuit. Elle passa par tous les sentiments qui font l'horreur de la plus noire jalousie. Tout l'étonnait, tout effrayait sa retenue de femme, dans la passion dont elle était victime. Elle n'avait eu que de l'amitié pour le général de Chastelet et de la reconnaissance pour ses procédés parfaits. Elle n'avait pas même l'expérience des livres. On lui avait peint tous les romans au Sacré-Cœur comme des livres obscènes. Depuis son mariage, elle ne lisait presque pas de romans. Il ne fallait pas connaître ce genre de livre quand on était admis à la conversation d'une auguste princesse. D'ailleurs, les romans lui semblaient grossiers. Mais puis-je dire même que je suis fidèle à ce qu'une femme se doit à elle-même ? Se dit-elle vers le matin de cette nuit cruelle. Si Monsieur Leven était là, vis-à-vis de moi, me regardant en silence, comme il fait quand il n'ose me dire tout ce qu'il pense, malheureux par les folles exigences que prescrit ma vertu, c'est-à-dire mon intérêt personnel. Pourrais-je supporter ces reproches muets ? Non, je céderai. Je n'ai aucune vertu, et je fais le malheur de ce que j'aime. Cette complication de douleur fut trop forte pour sa santé. Une fièvre se déclara. La tête exaltée par la fièvre, qui dès le premier jour alla jusqu'au délire, elle voyait sans cesse sous ses yeux Madame d'Aucuincourt, gaie, aimable, heureuse, parée de fleurs charmantes à ce concert de Madame Malibran. On lui avait parlé du fameux bouquet, orné de 1000 grâces séduisantes, et Leven était à ses pieds. Ensuite revenait ce raisonnement. Mais malheureuse que je suis, qu'ai-je accordé à Monsieur Leven qui puisse l'engager avec moi? À quel titre puis-je prétendre l'empêcher de répondre aux prévenances d'une femme charmante, plus jolie que moi, et surtout bien autrement aimable, et aimable comme il faut l'être pour plaire à un jeune homme habitué à la société de Paris? Une gaieté toujours nouvelle et jamais méchante. En suivant ces tristes raisonnements, Madame de Chastelet ne put s'empêcher de demander un petit miroir ovale. Elle s'y regardait. À chaque expérience de ce genre, elle se trouva moins bien. Enfin, elle conclut qu'elle était décidément laide et en aima davantage Leven du bon goût qu'il avait de lui préférer Madame d'Aucuincourt. Le second jour, la fièvre fut terrible et les chimères qui déchiraient le cœur de Madame de Chastelet encore plus sombres. La vue seule de Mademoiselle Bérard lui donnait des convulsions. Elle ne voulut point voir Monsieur de Blancé. Elle avait horreur de lui. Elle le voyait sans cesse lui racontant ce concert fatal. Monsieur de Pontlevé lui faisait deux visites de cérémonie chaque jour. Le docteur Dupoirier la soigna avec l'activité et la suite qu'il mettait à tout ce qu'il entreprenait. Il venait trois fois le jour à l'hôtel de Pontlevé. Ce qui frappa surtout Madame de Chastelet dans ses soins, c'est qu'il lui défendit absolument de se lever. Dès lors, elle ne put plus espérer de voir Leven. Elle n'osait prononcer son nom et demander à sa femme de chambre s'il venait demander de ses nouvelles. Sa fièvre était augmentée par l'attention continue et impatiente avec laquelle elle prêtait l'oreille pour chercher à entendre le bruit des roues de son tilbury qu'elle connaissait si bien. Leven se permettait de venir chaque matin. Le troisième jour de la maladie, il quittait l'hôtel de Pontlevé fort inquiet des réponses ambiguës de Monsieur Dupoirier. En montant en tilbury, il lança son cheval avec trop de rapidité et sur la place garnie de tilleuls taillés en parasol, qu'on appelait la promenade publique, passa fort près de Monsieur de Sanréal. Celui-ci sortait de déjeuner et en attendant le dîner, s'appuyant sur le bras du comte Ludwig Roller, promenait son oisiveté dans les rues de Nancy. Ce couple formait un contraste burlesque. Sanréal, quoique fort jeune, était énorme, haut en couleur, n'avait pas 5 pieds de haut et portait d'énormes favoris d'un blond hasardé. Ludwig Roller, long, blême, malheureux, avait l'air d'un moine mendiant qui a déplu à son supérieur. Au haut d'un grand corps de 5 pieds 10 pouces au moins, une petite tête blême, recouverte de cheveux noirs retombant sur les oreilles en couronne, comme ceux d'un moine. Des traits maigres et immobiles entouraient un œil éteint et insignifiant. Un habit noir, serré et râpé, achevait le contraste entre l'ex-lieutenant de cuirassier, pour qui sa solde était une fortune, et l'heureux sans réal, dont depuis de longues années l'habit ne pouvait plus se boutonner, et qui jouissait de 40 000 livres de rente au moins. À l'aide de cette fortune, il passait pour fort brave, car il avait des éperons en fer brut longs de 3 pouces, ne pouvait pas dire 3 mots sans jurer, et ne parlait guère un peu au long que pour s'embarquer dans quelque histoire de duel à faire frémir. Il était donc fort brave, quoique ne s'étant jamais battu apparemment à cause de la peur qu'on avait de lui. D'ailleurs, il possédait l'art de lancer les frères Roller sur les gens qui lui déplaisaient. Depuis les journées de juillet, suivies de leur démission, ces messieurs s'ennuyaient bien plus qu'auparavant. Entre 3, ils avaient un cheval, et ne sortaient guère avec plaisir de leur apathie que pour se battre en duel, ce dont ils s'acquittaient fort bien, et ce talent faisait leur considération. Comme il n'était que midi, quand le tilbury de Leven fit trembler le pavé sous les pas de l'énorme sans réal, il n'était encore entré dans aucun café et ne se trouvait pas tout à fait gris. Soutenu par Ludwig Roller, il s'amusait à prendre sous le menton les jeunes paysannes qui passaient à sa portée. Il donnait des coups de cravache aux tentes placées devant la porte des cafés et aux chaises rangées sous ses tentes. Il effeuillait aussi les branches des tilleuls de la promenade publique qui pendaient trop bas. Le passage rapide du tilbury le tira de ses aimables passe-temps. « Crois-tu qu'il ait voulu nous braver ?» dit-il à Ludwig Roller en le regardant avec un sérieux de matamor. « Écoute, lui dit le comte Ludwig en pâlissant, ce fat-là est assez poli et je ne crois pas qu'il ait voulu nous offenser avec son tilbury. Mais je ne l'en déteste que plus à cause de sa politesse. Il sort de l'hôtel de Pont-Levé. Il prétend nous enlever en toute douceur et sans nous fâcher la plus jolie femme de Nancy et la plus riche héritière, du moins dans la classe où toi et moi pouvons choisir une femme. Et cela, ajouta Roller d'un ton ferme, je ne le souffrirai pas. Dis-tu vrai ? Répondit sans réal, enchanté. « Dans ces choses-là, mon cher, » répliqua Roller d'un ton sec et piqué, « tu dois savoir que je ne dis jamais faux. »« Est-ce que tu vas me faire des phrases, à moi ?» répondit sans réal d'un air de spadassin. « Nous nous connaissons. L'essentiel est qu'il ne nous échappe pas. L'animal est futé et s'est bien tiré de 2 duels qu'il a eus à son régiment. »« Des duels à l'épée ? C'est une belle affaire. » On a appliqué 200 sous à la blessure qu'il a faite au capitaine Bobet. Mais avec moi, morbleu, ce sera un bon duel au pistolet, et à 10 pas. Et s'il ne me tue pas, je te réponds qu'il lui faudra plus de 200 sous. Allons chez moi. Il ne faut pas parler de ces choses devant les espions du juste milieu qui remplissent notre promenade. J'ai reçu hier une caissette de quichoisseur de Fribourg-en-Brisgau. « Envoyons prévenir tes frères et l'enfort. »« Ai-je besoin de tant de monde, moi ? Une demi-feuille de papier va faire l'affaire. » Et le comte Ludwig marchait vivement vers un café. « Si tu veux faire le brutal avec moi, je te plante là. » Il s'agit d'empêcher que par quelques tours de passe-passe, ce maudit Parisien ne nous mette dans notre tort et par suite ne se moque de nous. Qui l'empêche de répandre dans son régiment que nous avons formé entre nous, jeune noblesse lorraine, une société d'assurance pour ne pas nous laisser enlever les veuves qui ont de bonnes dotes ? Les 3 Roller, Murset et Goëlo, que le garçon de café trouva à 10 pas de là, faisant une poule au billard, furent bientôt rassemblés dans le bel hôtel de M. de San Réal, enchantés d'avoir à parler de quelque chose. Aussi parlaient-ils tous ensemble. Le conseil se tenait autour d'une superbe table d'acajou massif. Il n'y avait pas de nappe, pour imiter les dandys anglais, mais sur l'acajou circulaient de magnifiques flacons de cristal de la manufacture voisine de Baccarat. un kirschwasser limpide comme de l'eau de roche, une eau-de-vie d'un jaune ardent comme le madère, brillait dans ses flacons. Il se trouva bientôt que chacun des trois frères Roller voulait se battre avec Leven. Monsieur de Goëlo, fat de 36 ans, sec et ridé, qui dans sa vie avait prétendu à tout et même à la main de madame de Chastelet, plaidait sa cause avec poids et mesure et voulait se battre le premier avec Leven, car enfin il se trouvait lésé plus qu'aucun. Est-ce qu'avant son arrivée je ne prêtais pas à la dame des romans anglais de Baudry? Baudry toi-même, dit monsieur de Lanfort, qui était survenu. Ce beau monsieur nous a tous offensés, et personne plus que le pauvre Dantin, mon ami, qui est allé se dépiquer. Digérer ses cornes, interrompit San Réal en riant très fort. Dantin est mon ami de cœur, reprit Lanfort, choqué de ce ton grossier. S'il était ici, il se battrait avec vous tous, plutôt que de n'avoir pas à faire le premier à cet aimable vainqueur. Et pour toutes ces raisons, moi aussi je veux me battre. Le courage de San Réal se trouvait depuis 20 minutes dans une situation pénible. Il voyait fort bien que tout le monde voulait se battre. Lui seul n'avait point annoncé de prétention. Celle de Lanfort, être doux, aimable, élégant par excellence, le poussa à bout. « Dans tous les cas, messieurs, » dit-il enfin d'une voix contrainte et criarde, « je me trouve le second sur la liste. C'est Roller et moi qui avons fait le projet dans la grande promenade sous les jeunes tilleuls. » « Il a raison, » dit monsieur de Goëlo. « Tirons au sort à qui défera le pays de cette peste publique. » Et il se rengorgea, fier de la beauté de la phrase. « À la bonne heure, » dit Lanfort. « Mais, messieurs, qu'on ne se batte qu'une fois. Si monsieur Leven doit avoir affaire à 4 ou 5 d'entre nous, l'Aurore s'emparera de cette histoire, je vous en avertis, et vous vous verrez dans les journaux de Paris. » « Et s'il tue un de nos amis ?» dit San Réal. « Faudra-t-il donc laisser le mort sans vengeance ?» La discussion se prolongea jusqu'au dîner, que San Réal avait fait préparer abondant et excellent. On se donna parole d'honneur en se quittant, à 6 heures, de ne parler de cette affaire à qui que ce soit. Et avant 8 heures, monsieur Dupoirier savait tout. Or, il y avait ordre précis de Prague d'éviter toute querelle entre la noblesse et les régiments du camp de Lunéville ou des villes voisines. Le soir, monsieur Dupoirier s'approcha de San Réal avec la grâce d'un bouledogue en colère. Ses petits yeux avaient le brillant de ceux d'un chat irrité. « Demain, vous me donnez à déjeuner à 10 heures. Invitez messieurs Roller, de Lanfort, de Goëlo et tous ceux qui sont du projet. Il faut qu'ils m'entendent. » San Réal eut bien voulu se fâcher, mais il craignit un mot piquant de Dupoirier qui serait répété par tout Nancy. Il accepta d'un signe de tête presque aussi gracieux que la mine du docteur. Le lendemain, tous les convives du déjeuner firent la mine quand ils apprirent à qui ils auraient affaire. Il arriva d'un air affairé. « Messieurs, dit-il aussitôt et sans saluer personne, la religion et la noblesse ont bien des ennemis. Les journaux, entre autres, qui racontent à la France et enveniment tout ce que nous faisons. S'il ne s'agissait ici que de bravoure chevaleresque, je me contenterai d'admirer, et je me garderai bien d'ouvrir la bouche, moi, pauvre plébéien, fils d'un petit marchand, et qui ai l'honneur de m'adresser aux représentants de tout ce qu'il y a de plus noble en Lorraine. Mais, messieurs, il me semble que vous êtes un peu en colère. La colère seule, sans doute, vous a empêché de faire une réflexion qui est de mon domaine à moi. Vous ne voulez pas qu'un petit officier vous enlève, madame de Chastelet? Eh bien, quelle force au monde peut empêcher madame de Chastelet de quitter Nancy et de s'établir à Paris? Là, environnée de ses amis qui lui donneront de la force, elle adressera à monsieur de Pontlevé les lettres les plus touchantes du monde. « Je ne puis être heureuse qu'avec monsieur Leven, » dira-t-elle. Et elle le dira bien, parce que, d'après ce que vous avez observé, elle le pense. Monsieur de Pontlevé refuse-t-il, ce qui est douteux, car sa fille parle sérieusement, et il ne voudra pas rompre avec une personne qui a 40 000 francs dans les fonds publics. Monsieur de Pontlevé refuse-t-il? Madame de Chastelet, fortifiée par les conseils de ses amis de Paris, parmi lesquels nous comptons des dames de la plus haute distinction, Madame de Chastelet se passe fort bien du consentement d'un père de province. Êtes-vous sûr de tuer Monsieur Leven, raide? En ce cas, je n'ai rien à dire. Madame de Chastelet ne l'épousera pas. Mais croyez-moi, elle n'épousera pour cela aucun de vous. C'est selon moi une femme d'un caractère sérieux, tendre, obstiné. Une heure après la mort de Monsieur Leven, elle fait mettre ses chevaux, en va prendre d'autres à la poste prochaine, et Dieu sait où elle s'arrêtera. À Bruxelles, à Vienne peut-être, si son père a des objections invincibles contre Paris. Quoi qu'il en soit, tenez-vous-en à ceci. Si Leven est mort, vous la perdez pour toujours. S'il est blessé, tout le département sera la cause du duel. Avec sa timidité, elle se croit déshonorée, et le jour où Leven est hors de danger, elle s'enfuit à Paris, où un mois après il la rejoint. En un mot, la seule timidité de Madame de Chastelet la retient à Nancy. Donnez-lui un prétexte, et elle part. En tuant Leven, vous satisfaites un bel accès de colère, je l'avoue, et à vous sept, vous le tuerez sans doute. Mais les beaux yeux et la dot de Madame de Chastelet s'éloignent de vous à tout jamais. » Ici l'on murmura, mais l'audace de Dupoirier en fut doublée. « Si deux ou trois de vous, reprit-il avec énergie et en élevant la voix, se battent successivement contre Leven, vous passez pour des assassins, et le régiment tout entier prend parti contre vous. » « C'est justement ce que nous demandons !» s'écria Ludwig Roller avec toute la fureur d'une colère longtemps contenue. « C'est cela ? » dirent ses frères. « Nous verrons les bleus !»« Et c'est justement ce que je vous défends, messieurs, au nom de monsieur le commissaire du roi en Alsace, Franche-Comté et Lorraine !» Tout le monde se leva à la fois. On s'insurgea contre l'audace de ce petit bourgeois qui prenait ce ton avec la fleur de la noblesse du pays. C'était précisément dans ces occasions que jouissait la vanité de Dupoirier. Son génie fougueux aimait ces sortes de batailles. Il n'était pas sans sentir vivement les marques de mépris et avait besoin, dans l'occasion, d'écraser l'orgueil des gentilshommes. Après des torrents de paroles insensées, dictées par la vanité puérile qu'on appelle « orgueil de la naissance », la présente bataille tourna tout à fait à l'avantage du tacticien Dupoirier. « Voulez-vous désobéir, non à moi, qui suis un ver de terre, mais à notre roi légitime, Charles X ?» leur dit-il quand il vit que chacun à son tour s'était donné le plaisir de parler de ses aïeux, de sa bravoure et de la place qu'il avait occupée dans l'armée avant les fatales journées de 1830. Le roi ne veut pas se brouiller avec ses régiments. Rien de plus impolitique qu'une querelle entre son corps de noblesse et un régiment. Dupoirier répéta cette vérité si souvent et avec tant de termes différents qu'elle finit par pénétrer dans ses têtes peu habituées à comprendre le nouveau. Les amours-propres capitulèrent au moyen d'un bavardage dont Dupoirier calcula la durée à 3/4 d'heure ou 1 heure. Pour tâcher de perdre moins de temps, Dupoirier, dont l'âpre vanité commençait à être calmée par l'ennui, prit sur soi d'adresser un mot agréable à tout le monde. Il fit la conquête de Monsieur de Saint-Réal, qui fournissait des raisons au Roller, en lui demandant du vin brûlé. Saint-Réal avait inventé une façon nouvelle de faire ce breuvage adorable et courut à l'office le préparer lui-même. Quand tout le monde eut accordé la dictature à Dupoirier, « Voulez-vous réellement, messieurs, éloigner Monsieur de Leven de Nancy et ne pas perdre Madame Chastelet ?»«
Sans doute !»
répondit-on avec humeur. « Eh bien, j'en sais un moyen assuré. Vous le devinerez probablement en y songeant. » Et son œil malin jouissait de leur air attentif.
« Demain, à pareille heure, je vous dirai quel est ce moyen. Il n'y a rien de plus simple.
Mais il a un défaut. Il exige un secret profond pendant un mois. Je demande de ne m'ouvrir qu'à deux commissaires désignés par vous, messieurs. »
En disant ces paroles, il sortit brusquement, et à peine sorti, Ludwig Roller le chargea d'injures atroces. Tous suivirent cet exemple, à l'exception de l'amphore, qui dit
« Il a un fichu physique, il est laid, malpropre, son chapeau a bien 18 mois de date, il est familier jusqu'à la grossièreté. La plupart de ses défauts tiennent à sa naissance. Son père était marchand de chanvre, comme il nous l'a dit. Mais les plus grands rois se sont servis d'ignobles conseillers. Du Poirier est plus fin que moi, car du diable si je devine son moyen infaillible. Et toi, Ludwig, qui parle tant, le devineras-tu ? »
Tout le monde rit, excepté Ludwig. Et sans réal, enchanté de la tournure que prenaient les affaires, les engagea à déjeuner pour le lendemain. Mais avant de se séparer, quelque piqué que l'on fût contre du Poirier, on désigna les deux commissaires qui devaient s'aboucher avec lui. Et naturellement, le choix tomba sur les deux personnages qui auraient le plus crié de n'être pas nommés, messieurs de Sanréal et Ludwig Roller. En quittant ces fougueux gentilshommes, du Poirier alla d'un pas pressé chercher, au fond d'une rue étroite, un petit prêtre que le sous-préfet croyait son espion dans la bonne compagnie et qui, comme tel, accrochait un assez bon lopin des fonds secrets.
« Vous allez dire à Monsieur Fléron, mon cher Olive, que nous avons reçu une dépêche de Prague dans laquelle nous avons délibéré 5 heures en séance chez Monsieur de Sanréal. Mais cette dépêche est d'une telle importance que demain à 10h30, nous nous réunissons de nouveau au même lieu. »
L'abbé Olive avait de Monseigneur l'évêque la permission de porter un habit bleu extrêmement râpé et des bas gris de fer. Ce fut dans ce costume qu'il alla trahir M. du Poirier et annoncer à M. l'abbé Ré, grand vicaire, la commission qu'il venait de recevoir du docteur. Ensuite, il se glissa chez le sous-préfet, qui, sur cette grande nouvelle, ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, de grand matin, il fit dire à l'abbé Olive qu'il paierait 50 écus une copie fidèle de la dépêche de Prague, et il osa écrire directement au ministre de l'Intérieur, au risque de déplaire à son préfet, M. Dumoral, ancien libéral renégat et homme toujours inquiet. M. Fléron écrivit aussi à ce dernier, mais la lettre fut jetée à la boîte 1 heure trop tard, et de façon à laisser passer 24 heures d'avance à l'avis important donné au ministre par le simple sous-préfet.